France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec Alain Bazot, le président de l'UFC Que Choisir, la plus connue et sans doute la plus influente des associations de consommateurs. Elle vient de fêter ses 70 ans et poursuit ses combats, notamment pour le pouvoir d'achat. Un sujet plus que jamais d'actualité, la preuve avec la flambée du prix des carburants. Alors, certains automobilistes évitent tout simplement de trop rouler.
Éviter de tourner la clé, quoi. Inutilement, quoi. Aller voir la mer le dimanche, on ne le fait plus, par exemple. Avant, on y allait sans se poser de questions.
Nous verrons ce que propose l'UFC Que Choisir pour faire baisser les prix de l'énergie et notamment le prix de l'électricité. L'UFC Que Choisir, une association de consommateurs citoyens qui n'a pas peur de s'attaquer à des montagnes. Elle a fait condamner Google, Facebook, Twitter sur la question de la protection des données. Elle n'a pas hésité non plus à s'attaquer aux opérateurs de téléphonie mobile. Autant de victoires sur lesquelles on reviendra ce soir. On verra aussi que l'UFC s'est toujours battu pour l'information des consommateurs. C'était déjà le cas dans les années 50 avec des communiqués sur les prix des produits lus à la radio.
Les fruits restent toujours chers. On trouve sur les marchés des lots de pommes et de poires communes de la région parisienne autour de 120 francs le kilo, des pommes de châtaignier, des rennes et des rainettes de 140 à 160 francs le kilo.
Voilà, ça c'était en 1957. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis. Et une nouveauté ce soir, une chronique signée Vincent Martini, qui est professeur de sciences politiques. Ça s'intitule « Jeu de pouvoir », sorte de pas de côté politique avant les élections. Ce sera aux alentours de 18h42. À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on s'intéresse aux courriers de l'Élysée, à ceux qui écrivent au président. Vous saurez tout en écoutant nos invités qui viennent de consacrer un livre à ce sujet. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Magdalena Hervada qui lit vos mails, ainsi qu'à Michel Bézikian, Louis Audebert et Clément Berman qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Alain Bazot.
Bonsoir.
Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'UFC Que Choisir depuis près de 20 ans. Votre association, elle, vient de fêter ses 70 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa raison d'être reste intacte. En fait, la défense des consommateurs, c'est sans fin, Alain Bazot.
Oui, effectivement, je le crains dans la mesure où on a une situation pour le consommateur qui est classiquement inégalitaire. On voit bien que le consommateur isolé, qui n'est pas spécialiste de rien, il est généraliste et il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il se chauffe, etc. Et il est face à des professionnels qui sont des spécialistes, qui sont puissants, qui sont souvent concentrés. Et donc, il y a une inégalité extrêmement importante, une posture. Et donc, le jeu et le rôle d'une association comme la nôtre, c'est de tenter de rééquilibrer ce rapport de force. Et donc, pour rééquilibrer un rapport de force, il y a plein d'outils, informer, etc. Mais déjà, regrouper.
L'union fait la
force, effectivement, tout à fait.
Alors, vous bataillez depuis 1951 pour le pouvoir d'achat et pour plein d'autres choses dont on parlera. Mais d'abord, on va s'arrêter sur la question la plus chaude du moment, celle du prix de l'énergie, qui est plus que jamais à la une, que ce soit le prix des carburants, du gaz, de l'électricité. Sur l'électricité, Alain Bazot, ça a tangué ces derniers jours et c'est pas fini. Le gouvernement vient d'obliger EDF à vendre à ses concurrents davantage d'électricité à bas prix. C'est d'ailleurs ce que vous demandiez. Vous avez obtenu satisfaction, mais visiblement, ça ne plaît ni à la direction ni au syndicat d'EDF. L'entreprise se sent fragilisée. Il y a même un appel à la grève pour le 26 janvier. Vous pensez que c'est la bonne décision qu'a pris le gouvernement ?
Ben, effectivement, nous, notre position, c'est de dire que les Français doivent bénéficier complètement de la compétitivité du parc électronucléaire français. Bon. Or, avec la libéralisation, le fait qu'on a libéralisé le marché de l'électricité sans s'occuper de la production, pour laquelle on a un avantage très intéressant en France, il a fallu monter un système ultra compliqué pour faire en sorte que si on libéralise, tout de même EDF n'ait pas la liberté de fixer ses prix, parce qu'autrement, il va aligner ses prix sur le marché international et on va plus avoir le bénéfice de l'énergie nucléaire. Et donc, pour faire simple, toutes les capacités de production d'EDF ne sont pas vendues aux Français. Il y a une partie qui est vendue à l'international. très cher actuellement, avec le prix du marché mondial, il vend très cher. Et nous, on a dit, il n'est pas normal qu'on subisse, nous, de plein fouet, l'augmentation des tarifs d'électricité qui sévissent dans le monde, alors qu'on a notre énergie nucléaire pour laquelle on a investi, on a payé. Les Français, les citoyens ont payé, ils ont pris le risque, parce qu'il y a un risque attaché au nucléaire, qu'on le veuille ou non. Donc tout ça, le retour, c'est qu'on doit bénéficier de cette énergie. Et donc nous, on demandait qu'il y ait davantage d'énergie nucléaire qui soit vendue à un tarif régulé. C'est tout à fait logique. S'il n'est pas régulé, on va s'aligner sur le tarif mondial, qu'il soit régulé et qu'il y a davantage d'électricité. Alors évidemment, ça fait un manque à gagner à EDF.
Ça fragilise l'entreprise, très clairement.
Je ne sais pas si ça fragilise, mais il y a une légitimité à ce que les Français bénéficient de ce parc électronucléaire. Et donc, la décision qui aurait dû être prise beaucoup plus en amont, c'est pour ça aussi que ça crée une difficulté à EDF. Parce que ses capacités d'électricité nucléaire, il les a déjà vendues. Donc il peut plus les vendre aux Français. Donc pour vendre de l'énergie pas chère aux Français, comme va lui imposer l'État, vous voyez comment c'est aberrant le système, il va être obligé, EDF, d'acheter très cher de l'électricité à l'extérieur, parce que la sienne, il l'a déjà vendue, et la revendre pas cher en France. Donc c'est un système complètement aberrant, tout ça parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Nous, on avait demandé depuis très longtemps que la quantité qui était de 100 TWh, on l'augmente à 150 TWh, et là, ça aurait empêché l'explosion des prix en France. On ne l'a pas fait, et là, puisqu'il y a la promesse de limiter à 4%, on a utilisé quelques leviers, il y en a encore d'autres qu'on pourrait utiliser. Celui-là, on l'utilise. Au lieu d'en vendre 100, on va en vendre 120. On estime que ça suffira sans doute pas. Donc voilà l'enjeu.
Avec un débat qui est loin d'être clos sur la question du prix de l'électricité. La flambée des prix de l'énergie a des conséquences aussi sur le prix des carburants à la pompe, Alain Bazot. Le gazole dépasse 160 le litre. Faire le plein, c'est devenu un luxe. Exemple avec ce reportage de Chloé Senard de France Bleu Brésisel dans une station-service de Quimper.
Que ce soit gasoil ou essence, une fois devant la pompe, le constat est le même.
J'ai deux voitures, c'est 4 pleins par mois, quoi. Il y a quelques mois, on était à 150 euros par mois, on arrive à 200, quoi.
C'est commencé inquiétant, oui, c'est sûr. Je sais pas où ça va s'arrêter, mais bon. J'attends pas, je fais quand je suis à la moitié, comme ça me fait moins inverser. Parce que si on attend de faire le plein, quand le réservoir est vide, alors là, ça fait mal. Là.
Mais pas le choix, ajoute cet automobiliste. Il faut bien utiliser sa voiture pour aller travailler tous les jours. Alors, on cherche des moyens d'économiser quelques euros, télétravail, covoiturage, mais aussi restrictions. C'est ce que fait Olivier au quotidien.
Il y a 15 ans, je roulais beaucoup plus que ça. Je prenais la voiture assez facilement. Là, non. Éviter de tourner la clé, quoi. Inutilement, quoi. Aller voir la mer le dimanche, on ne le fait plus, par exemple. Avant, on y allait sans se poser de questions, plus, quoi. Et on mutualise beaucoup. Je vais là, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je vous dirais même avec les voisins. Ça nous arrive de vraiment mettre en commun. Parce que on est tous pareils, hein, voilà. On est en discussion. Ah, tu vas là-bas, tiens, j'ai besoin de ça. Dis-moi ce qu'il te faut. Et parce que maintenant, le coût du transport, c'est phénoménal.
Voilà, le covoiturage, c'est bien, Alain Bazot, mais c'est sans doute pas la solution qui peut satisfaire dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, alors effectivement.
Baisser la TVA?
Oui, alors. Bon, déjà, c'est pas mal que l'augmentation des prix, ça remette en question une forme d'insouciance, utiliser la voiture pour un oui, un non. Bon, ça on l'entend, mais ça reste effectivement marginal. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la voiture et n'ont pas d'alternative. Que ce soit en milieu périurbain, que ce soit en rural, les gens qui sont, je le sais, j'habite en zone rurale, vous devez avoir une voiture. Bon. Donc, vous n'allez pas faire 30 km pour aller travailler à bicyclette ou en trottinette.
Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public?
Alors, il y aurait une mesure à prendre, alors là, qui est sur la fiscalité. Nous, on dénonce depuis un certain temps une aberration fiscale qui est de prendre de la TVA sur des taxes. C'est une monstruosité. La TVA, il faut se rappeler que ça s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Donc en fonction de la valeur ajoutée, on taxe cette valeur ajoutée de transformation d'un produit, bon, etc. Là, l'État il taxe l'énergie et il met de la TVA sur la taxe. Donc ça, il faut s'interroger sur l'acceptabilité de cette fiscalité qui est complètement démente, qui n'a pas de légitimité. Sauf que ça rapporte beaucoup d'argent, de façon très injuste. On sait très bien que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit. Puisque plus votre part de revenus va dans de la consommation, plutôt que dans de l'épargne ou de l'investissement, va dans de la consommation.
Donc vous demandez
pour
ça.
Manger, pour se déplacer, plus vous êtes vous êtes pénalisé. Bon. Donc nous on dit, il faut arrêter parce que ça n'a pas de sens. En plus de la TVA qui est très élevée sur des biens essentiels. Est-ce que c'est normal que sur un bien essentiel, parce qu'avoir de l'énergie, c'est pour se déplacer, aller au travail, c'est pour se chauffer, bon, etc. Donc ce sont des choses fondamentales, c'est pas du plaisir et de la légèreté. Est-ce qu'il est normal que l'État tonde le citoyen sur ce genre de bien, alors qu'il pourrait sans doute trouver de l'argent ailleurs que sur les plus modestes, parce que ce sont eux qui vont payer. Donc on dit que... Et là, on est à 4,6 milliards, autour de ça, rien que la TVA sur les taxes, rien que ça. Donc c'est dire, si c'est quelque chose d'extrêmement juteux. Donc le paradoxe, c'est que l'État... Qui fait les gentils vis-à-vis des citoyens, des consommateurs, en distribuant des chèques, etc. En réalité, il prend d'un côté ce qu'il donne de l'autre.
Donc vous demandez très clairement cette baisse de la TVA, ou cette suppression en tout cas sur ces taxes. Alain Bazouet, les prix pour vous, c'est bien sûr quelque chose d'essentiel à l'UFC Que Choisir, mais vous vous battez aussi pour la qualité des produits, l'information sur les produits. Vous avez pas hésité dans l'histoire à appeler au boycott parfois sur certains produits, on se souvient du veau aux hormones, bien on sûr. Se souvient des pneus Kléber, des fectules, le talc morange, bien sûr. Mmh. Cette semaine, dans votre journal, vous parlez des additifs alimentaires. Il y a du boulot de ce côté-là encore à faire ?
Ben oui, bien sûr. Et ça, il y a un enjeu très important de santé. Les consommateurs sont très sensibles, de plus en plus, à avoir une visibilité de ce qu'ils mangent. Une visibilité de ce qui se met sur le corps, tout ce qui est cosmétique. Bon. Et on voit bien qu'il y a eu des excès de l'industrie chimique, l'excès d'utilisation hein, de produits, aussi bien dans l'alimentation que dans tous les produits qu'on va consommer. Et donc effectivement, ça fait partie de nos missions, et on s'est doté pour cela d'une expertise, à savoir, on a un service d'ingénieurs pour aller voir ce qu'il y a, au-delà d'étiquettes, ce qu'il y a dans les produits. Et donc, régulièrement, c'est vrai qu'on sort des études et on dénonce des produits qui contiennent... alors, c'est pas forcément des choses qui sont interdites, les seuils ne sont pas nécessairement franchis. S'ils sont nécessairement franchis, là, on va aller plus loin. On va pas simplement informer. Mais même s'ils sont pas franchis, faut voir qu'il y a l'effet un peu cocktail. C'est juste à la limite dans tel produit, mais comme j'en consomme plusieurs, eh bien, il y a quand même à terme un risque. C'est toute notre bataille sur les perturbateurs endocriniens, la bataille évidemment qu'on mène sur les glyphosates, qu'on retrouve éventuellement
c'est
dans l'alimentation.
C'est savoir un petit peu. Quels sont les produits que l'on consomme, quelle est leur composition avant toute chose.
C'est savoir, parce que c'est ça qui donne le pouvoir aux consommateurs, c'est de savoir. Savoir vous redonne votre liberté et votre liberté de choix.
Alors justement, Alain Bazouet, l'UFC Que Choisir vient de fêter ses 70 ans, il y a un livre qui est sorti à cette occasion, c'est vous qui l'avez publié comme d'habitude, l'UFC Que Choisir, le contre-pouvoir des consommateurs. Dans ce livre, on apprend des tas de choses, et on apprend notamment comment l'UFC a été créé en 1951. Moi j'ai découvert que c'est un homme du ministère de l'économie qui a créé l'UFC Que Choisir, un certain André Romieux, qui a poussé à la création de l'association pour faire entendre la voix des consommateurs, c'est ce que vous dites, pour qu'ils aient cette information. Ça a d'ailleurs été le premier président de l'UFC Que Choisir, on va l'entendre. C'était le 11 avril 1950 sur les ondes de la RTF, dans l'émission Le Consommateur en temps de paix, une chronique du Conseil économique André Romieux.
Lorsque vous entrez dans un magasin, vous trouvez devant vous un homme, le vendeur, qui connaît son métier alors que la plupart du temps vous ignorez le vôtre. Il a le temps et vous êtes pressé. Entre vous deux, la partie n'est pas égale. Selon les cas, le vendeur va pouvoir jouer de votre vanité, de votre convoitise, de votre gentillesse, de votre lassitude aussi. Mais tout ceci ne serait rien. Ce qui est grave, c'est votre ignorance, partielle ou totale, de l'objet qui vous est offert. Je voudrais qu'une information précise, contrôlée, sur la nature du produit vendu soit mise à la disposition de l'acheteur. Il me paraît indispensable que cette documentation technique prenne progressivement la place, ou du moins vienne compléter, la publicité suggestive du type traditionnel.
Et voilà, André Romieux, en 1951, Alain Bazouet, en 50 là, il n'avait pas encore créé l'UFC.
Oui. Oui, mais il est déjà dans l'analyse de façon, enfin, très très visionnaire. Hein. Et on voit que le cœur, effectivement, nucléaire de la défense des droits des consommateurs, c'est l'information. Et ce sont des combats, ça paraît un peu, j'allais dire, tarte à la crème, l'information.
Les gens sont informés. Non, non, pour nous, c'est pas du tout de la tarte à la crème, l'information.
Bah oui, bien sûr, une radio d'information, notamment. Et on se bat régulièrement pour obtenir de l'information. Un exemple récent, c'est le Nutri-Score. Bon, le Nutri-Score, on sait que depuis des années, l'industrie agroalimentaire avance masquée. Hein, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est équilibré, déséquilibré? On avait, comme disait M. Robieux, il disait il faut une information technique pour contrer la publicité. Mais maintenant, c'est plus de l'information technique qu'il faut. Parce que c'est ça qu'on avait, un décret des années 70 qui informait avec des tables sur le côté des produits alimentaires très transformés, avec des taux de glucides, des taux de lipides. Il faut Bac+12 pour comprendre ça. Il faut de l'information simple, pertinente, qui tout de suite permet aux consommateurs d'avoir un choix éclairé. Eh bien, c'est une bataille sans fin, une résistance des industriels qui veulent avancer masqués sur ce qu'ils font manger aux gens. Et donc, voilà, l'enjeu, et on a ça, on a l'éco-score hein, aussi, qui est en train d'être discuté. Bref, c'est des enjeux majeurs en ce moment sur plein de thématiques.
Qui restent d'actualité, mais je voudrais vous faire encore écouter une archive, parce que là, on vient de l'entendre en 1950, avant la création de l'UFC. En 51, votre association est donc créée. Et figurez-vous que chaque matin, et c'est expliqué dans le livre, dans l'histoire de l'UFC, un représentant de l'association se rend au hall à Paris, note les prix, puis les transmet à la presse et tous les matins à la radio. Un communiqué est diffusé dans le journal parlé de 8h, exemple le 10 octobre 1957 avec cet extrait.
Eh bien, dernière rubrique de notre émission, le conseil à l'aménager, André Migaud.
Bien, le beau temps de ces derniers jours a favorisé la production maraîchère et la baisse des prix se poursuit ce matin sur le marché des légumes. Aucun produit n'est en hausse. La baisse est de 5 à 10 francs le kilo pour les artichauts, les carottes, les haricots écossais, les salades et les poireaux. Les salades sont vendues à des prix inférieurs à ceux d'avant la grève des producteurs. Vous les trouverez donc de 40 à 70 francs le kilo. Les fruits restent toujours chers. On trouve sur les marchés des lots de pommes et de poires communes de la région parisienne autour de 120 francs le kilo, des pommes de châtaignier, des rennes et des rennettes de 140 à 160 francs le kilo. Le marché du poisson est bien approvisionné. Sa tendance reste à la baisse. Notons parmi les poissons du jour du colino que vous pourrez trouver à partir de 300 francs le kilo et de la limansloupe à partir de 280 francs le kilo. Dans le secteur de la viande, on enregistre une légère baisse du prix du mouton. Vous pourrez trouver de l'épaule de mouton de 600 à 680 francs le kilo et de l'épaule d'agneau de 680 à 750 francs le kilo. Ici Paris, Radiodiffusion, Télévision française. Vous venez d'entendre notre journal parlé, qui vous a été présenté comme chaque matin par Lucien Renaud.
Voilà, bah oui, c'était précis, hein, à cette époque-là, Alain Bazot.
Mais je vous ferai observer qu'aujourd'hui, c'est pas une information qui serait pertinente. On voit qu'on est à une époque des années 50, parce que aujourd'hui, nous, on dit. Il y a une évolution des prix, et avec nos enquêtes, et je rends hommage, on a 4000 enquêteurs, régulièrement, on fait des enquêtes pour savoir les niveaux de prix, notamment de la grande distribution, mais pas que, et on dit où c'est moins cher. On se contente pas de dire, vous pouvez trouver, comme ça vient d'être dit, du bœuf à tel prix, on va dire, le bœuf, il peut être à tel prix, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Mais maintenant, ce qui fait notre spécificité depuis un certain nombre d'années, c'est notre capacité à analyser la formation des prix. Il suffit pas de dire les prix sont de tel niveau. On est capable d'aller regarder dans les différents secteurs de la production et de la distribution comment se constituent les prix. Et c'est comme ça qu'on peut dénoncer que des prix sont artificiellement élevés. Je vais prendre un exemple assez récent. On avait démontré que le prix du bio, c'était dit tout à l'heure là par le président de Famille Rurale,
à propos
le prix du bio était extrêmement élevé. Nous, on est capable d'aller regarder comment se constituent les marges, et c'est comme ça qu'on a démontré que la grande distribution prenait une marge du double sur le bio. Et là, on va dénoncer un dysfonctionnement de la filière, des rentes de situations qui ne sont pas normales. C'est pas une fatalité. Et excusez-moi, dernière observation, c'est que l'UFC Que Choisir pour autant n'est pas une association qui défend le bas prix à tout prix. On sait bien que le bas prix à tout prix est destructeur de valeur et de qualité. Et donc ça, voilà, il y a toute une discussion aussi à avoir sur la notion de prix et de juste prix.
De juste prix, notamment par rapport à l'environnement et au travail des gens.
La rémunération, par exemple, des producteurs.
Des personnes qui sont derrière. On va revenir sur tous ces points, Alain Bazot, mais on va débat. On va s'arrêter à présent sur l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. À la une cette semaine, une bonne nouvelle enfin sur le front de la pandémie de Covid. Le Parlement européen au centre des débats politiques et les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza.
Il y a une règle qui est fixée par le gouvernement s'agissant des vacances, c'est qu'il faut être joignable en permanence.
Il faut rester dans l'espace européen.
Alors certes, Jean-Michel Blanquer est resté en Europe. Mais le fait qu'il ait annoncé l'inapplicable protocole de rentrée depuis Ibiza ne passe pas.
Ibiza, c'était peut-être un petit peu compliqué de voir la réalité du terrain.
C'est aussi le symbole d'Ibiza.
La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
Nous, en tant que parents, on est dedans. Nos enfants sont dedans. Ça montre bien qui ne sont pas dans les mêmes sphères et qui ne sont pas dans le concret.
À 3 mois de la présidentielle, une candidate de plus à gauche.
Je suis candidate à la présidence de la République.
Et un candidat de moins.
J'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle.
Arnaud Montebourg.
Je crois inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures.
Et ce renoncement a le mérite d'être clair.
J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat.
Ce qui n'est pas le cas du côté de Christiane Taubira.
Si vous perdez la primaire, vous arrêtez ?
Non, moi je ne raisonne pas comme ça.
Elle s'était pourtant engagée à respecter les règles de la primaire populaire. Mais cette consultation commence à agacer ceux qui ont été embarqués dans l'aventure contre leur gré.
Que la primaire populaire arrête de tuer la gauche qui nous laisse gagner cette élection présidentielle.
Nous ne sommes pas concernés par les mésaventures du centre-gauche.
Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting à Nantes dimanche.
Je ne suis pas leur copain. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes.
Strasbourg, capitale européenne de la présidentielle, mercredi, avec Emmanuel Macron devant le Parlement, pour la présidence française du Conseil de l'Union. Il veut notamment du nouveau pour la Charte des droits fondamentaux.
Je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement.
Il faut dire que la nouvelle présidente du Parlement, la Maltaise Roberta Metsola, est loin de faire l'unanimité.
Élire une femme qui est contre le droit à l'avortement en 2022 ?
L'eurodéputé Manon Aubry.
C'est un terrible signal pour le droit des femmes en Europe.
Sur l'environnement, Yannick Jadot monte au créneau.
Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique.
La présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral.
Le même jour, Éric Zemmour, qui a encore été condamné, fait campagne à Calais.
L'Europe d'Emmanuel Macron est une Europe sans corps, une Europe sans tête et une Europe sans âme.
Éric Zemmour, que le milliardaire Vincent Bolloré voit déjà à l'Élysée.
Personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République.
Là, c'est sans doute ce qui s'appelle prendre ses désirs pour des réalités. Sinon, gare au délai pour le pass vaccinal.
Je me suis fait vacciner le 29 juin. Il me reste quoi, 2 semaines ?
Dernier délai, c'était aujourd'hui, du coup, j'ai refait.
La bonne nouvelle de la semaine, c'est quand même l'embellie qui se confirme sur le front de la pandémie. Le Premier ministre Jean Castex.
Nous sommes incontestablement dans une nouvelle phase de l'épidémie.
L'épidémiologiste Arnaud Fontanet.
Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé. Le nombre d'infections va décroître considérablement pendant le mois de février. Et effectivement, au mois de mars, on devrait être à un niveau très bas.
Et encore merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France, toujours en compagnie du président de l'UFC Que Choisir, Alain Bazot. L'UFC Que Choisir qui se bat depuis 70 ans pour le pouvoir d'achat des Français, mais pas seulement. Alain Bazot, la France a donc pris pour 6 mois la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et à cette occasion, vous avez publié votre propre feuille de route à l'UFC. Pour quelle raison ?
Ben, déjà parce que il faut peut-être donner des idées, parce que quand on entend le discours du président de la République, la consommation, elle est complètement absente. Alors qu'on voit que la consommation, elle est au carrefour de tous les enjeux. Des enjeux de santé pour manger mieux, des enjeux évidemment de transition écologique, parce que la transition écologique, elle peut pas se faire sans les consommateurs. C'est eux qui consomment et qui font des choix, qui vont prendre plus les transports que la voiture individuelle, etc.
Et ça relève de l'Europe, tout ça ?
Ah, mais bien sûr. Aujourd'hui, le droit de la consommation, il est à 80% du droit européen. Donc, c'est un sujet majeur. Et souvent, consommation-environnement, ça se chevauche.
Et vous ferez pareil pour la présidentielle en France,
oui.
Votre feuille de route,
oui,
aussi, vous allez soumettre,
oui,
aux candidats un certain nombre de choses.
Voilà, pour ne rien vous cacher, on prépare un thème qui sera un thème partant du pouvoir d'achat. Parce qu'on a plein de propositions à faire. sur comment mettre fin à des rentes de situation. Donc, ce sont essentiellement des mesures. On va les chiffrer autour d'à peu près de 10 milliards d'euros qui ne coûtent pas un sou à l'État, mais qui viennent s'attaquer à des dysfonctionnements de marché, que ce soit dans le secteur de la banque, que ce soit dans le secteur de la grande distribution, où il y a la loi sur le seuil de revente à perte, qui mécaniquement oblige la grande distribution à vendre 10% plus cher les produits.
Et enfin, ensuite, vous demanderez aux candidats de s'engager sur...
On est en train de réfléchir.
Et puis vous direz, ça correspond...
On est en train de voir effectivement la méthode. Cela dit, pendant la présidence française, jury à l'Europe, il y a quand même des sujets qu'on va surveiller de près, qui sont des enjeux majeurs pour les consommateurs, c'est le problème de la responsabilité des marketplaces, les plateformes de vente, les places de marché. La vente en ligne. Actuellement, ils ne sont responsables de rien. Donc quand vous achetez des produits dangereux, etc., qu'il y a des soucis, ils se désengagent de tout. Il y a actuellement un texte en train d'être voté, on surveille pour être sûr que les droits vont bien être renforcés. Distribution du crédit, actuellement on a un vrai sujet de distribution du crédit. Les nouveaux crédits, les LLD, location longue durée, ils font un tabac. Les consommateurs ne sont pas protégés parce qu'on considère que c'est pas du crédit. Il y a la durabilité des produits. Et puis il y a l'affichage environnemental. Voilà quatre grands sujets européens qui, pendant la présidence française, on fera en sorte qu'ils avancent. On est inquiet parce que je vais vous dire, il y a un double discours. Entre ce que peut dire Monsieur Macron en disant il faut, par exemple, avancer dans la suppression du glyphosate sur le plan européen, alors qu'en réalité, en France, eh bien, il continue à ne pas honorer l'engagement qu'il avait dit de l'interdire.
Donc ce sont des sujets très politiques.
Ben, bien sûr. Tout à fait.
Un petit mot de l'assurance emprunteur, parce que ça c'est une de vos batailles aussi, Alain Bazot, ce qui doit permettre aux emprunteurs de changer d'assureur comme ils le souhaitent, au moment où ils le souhaitent. Le Sénat a freiné cette semaine, c'est ça ?
Mais oui,
la disposition a été votée à l'Assemblée et le Sénat a freiné.
Exactement, donc on est déçus, on voit la puissance du lobby des banques. Il s'agit quoi en fait ? De donner de la liberté aux consommateurs. Quand on dit que la loi c'est la loi du marché, une des règles que connaissent les économistes, c'est je dois être libre de changer. Or là, on a un système qui fait que l'assurance emprunteur, on ne peut pas facilement changer d'assurance une fois qu'on l'a prise. Même si on trouve une offre plus intéressante, c'est compliqué, je passe sur les détails. Et donc nous, on voulait, et parce que c'est le seul secteur d'assurance où vous ne pouvez pas changer à tout moment. Vous êtes enfermé d'année en année avec les banques qui font tout pour gagner des années et des années. On a chiffré. Très honnêtement, on a chiffré, il y a un bénéfice potentiel de quelques 500 millions d'euros. Si actuellement les gens avaient la liberté de regarder les comparateurs, on a nous un comparateur d'ailleurs des assurances, il y a des marges de pouvoir d'achat considérables à gagner. Et donc je suis déçu que le Sénat soit finalement le fossoyeur d'une mesure qui peut-être qui permettait de redonner du pouvoir d'achat, de la liberté.
On va quand même voir la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine que ça arrive.
Ça va passer en commission mixte, mais là de donner de l'information aux consommateurs, il arrive à un moment donné, les informer c'est bien beau, mais s'ils peuvent rien faire, c'est vraiment pas la solution.
D'où votre travail de pression sur ce genre de décision. On va poursuivre la discussion dans un instant, Alain Bazot. Mais comme promis, on accueille à présent Vincent Martini.
France Inter. Une semaine en France.
Vincent Martini, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique. Bonsoir Vincent Martini.
Bonsoir Claire.
Vous serez avec nous tous les vendredis pour une chronique intitulée « Jeux de pouvoir », une chronique à lire tous les samedis sur l'application du 1 Hebdo, car oui, le 1 se décline désormais en numérique. Une chronique dont vous allez nous offrir un avant-goût en avant-première, nous en sommes absolument ravis. C'est de la politique au sens très large, un peu décalé, un pas de côté pour comprendre la présidentielle. Et ce soir, Vincent, vous nous parlez du changement des règles du jeu politique.
Oui, c'est vrai, Claire. Les règles qui avaient organisé le jeu politique pendant des décennies se sont transformées brutalement. Jusqu'en 2017, le mode d'emploi de la présidentielle était connu de tous. L'élection voyait s'affronter dans un duel attendu des grands partis, organisés, enracinés dans le territoire. Les candidats, identifiés de longue date par les Français, s'opposaient essentiellement autour d'enjeux socio-économiques. Le vote était quant à lui déterminé par l'appartenance à des partis qui recoupaient les divisions sociales du pays. Cette réalité, on le sait, a explosé en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron et l'élimination des candidats des deux principaux partis politiques.
Mais alors, qu'est-ce qui a changé ?
Eh bien, à peu près tout. Le contexte d'abord, marqué par la désillusion et la distance avec la politique traditionnelle. Plus d'un tiers des électeurs se posent encore la question de prendre part au vote 3 mois avant le scrutin. Les débats n'évoquent plus que marginalement les questions économiques au profit d'enjeux comme l'identité ou l'immigration, brûlants, subjectifs. Les grands partis, quant à eux, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et la campagne, médiocre sur le fond des idées, voit pourtant une multiplication des candidatures dont aucune, hormis celle du président sortant, ne semble surnager. Et le tout est rythmé par des sondages, chaque fois plus nombreux, qui prétendent déchiffrer une opinion devenue illisible. Il y en avait 157 en 1995, nous avons dépassé les 500 en 2017, et tout indique qu'il y en aura encore plus cette année. Alors sur la forme, le changement est encore plus saisissant. Pour attirer l'attention, les candidats se plient à des mises en scène de plus en plus inspirées par la fiction. Éric Zemmour a ainsi été le premier candidat de la Ve République à se déclarer sur Twitter, et ce, dans une vidéo parodiant l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Pour la nouvelle année, Christiane Taubira a présenté ses vœux en slamant sur une scène. Les jeunes avec Macron, quant à eux, nous promettent 5 saisons de plus si leur héros est réélu, comme s'il s'agissait d'une série.
Alors cela veut-il dire que la politique est morte, comme on l'entend parfois ?
Au contraire, la période est plus politique que jamais et elle est passionnante, justement parce que les règles ont changé. De nouveaux sujets émergent dans la vie politique, comme la reconfiguration des rapports hommes-femmes ou le combat contre le changement climatique. Ils nourrissent de nouveaux mouvements sociaux qui viennent bousculer les ordres établis. Les débats sur l'histoire et sur la mémoire nous confrontent à la place de notre passé et nous forcent à regarder notre histoire en face. Les réseaux sociaux sont, malgré leurs défauts, de nouvelles agora démocratiques. La démocratie elle-même enfin s'enrichit d'expériences comme les primaires ou la Convention citoyenne pour le climat, alors que les récits politiques sont en pleine transformation, nourris par de nouvelles références, notamment à la pop culture. Alors c'est vrai que ce qui frappe pour l'instant dans cette campagne, c'est cette inadéquation entre la richesse de ces enjeux contemporains et la pauvreté du jeu politique traditionnel. Mais pour tous ceux que la politique passionne, ces mutations sont autant de promesses d'avenir, de réflexions et de débats dont cette chronique tentera chaque semaine de se faire l'écho.
Et on s'en réjouit. Jeu de pouvoir, merci Vincent Martini. On vous lit demain sur l'application de l'hebdomadaire Le 1. Alain Bazo, vous avez écouté attentivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ?
À la fois oui, à la fois non.
Ah, un vrai Normand.
Non, pourtant je ne suis pas Normand,
ah bon.
Je suis bourguignon.
Non, c'est vrai.
Passionnante, je ne sais pas si elle est passionnante, parce que très honnêtement, moi je trouve que les vrais sujets de société, est-ce qu'on réenchérante la politique, est-ce qu'on donne un avenir radieux, j'en suis pas sûr. On annonce, si c'était si radieux et intéressant cette campagne, on aurait une diminution du taux d'abstention. On a quand même un vrai problème. Est-ce qu'on aura, faut l'espérer, de nouveau les citoyens et peut-être les plus jeunes, parce que ce qui est dramatique, c'est le taux d'abstention, encore pire chez les jeunes. Et ça, c'est un vrai sujet.
Vincent Martini n'est pas tout à fait d'accord.
La dernière chose, c'était sur la convention citoyenne. Alors là, franchement, c'est quand même un beau fiasco. Aller interroger les membres de la Convention citoyenne, ça a donné la loi, je sais plus, climat, où on a pratiquement rien retenu. Donc c'est quand même un sacré leurre. Et ça, je trouve que ça fait du mal à ces nouveaux modes d'expression de la citoyenneté.
Alors c'est précisément ce que je disais, justement, sur la différence entre une campagne, un jeu politique dans le jeu qui reste un peu déceptif, décevant, au sens où vous l'entendez, mais une vie politique au sens large, où des enjeux nouveaux émergent dans la société, et qui sont des enjeux strictement politiques, même s'ils ne sont pas encore dans le jeu.
On est d'accord.
D'accord.
Et on va... on en revient 2 secondes à la consommation.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous ? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauve-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
La complainte du progrès, Boris Vian, choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Toujours en compagnie du président Alain Bazou, président de l'UFC Que Choisir depuis près de 20 ans et militant depuis 1977. Alors on va voir comment tout ça a commencé. Oui. Alain Bazou, vous êtes bourguignon, vous venez de nous le dire, vous avez grandi dans Lyon, à Migennes, si mes informations sont bonnes. Papa cheminot, une maman qui aurait rêvé d'être institutrice. Oui. Vous avez fait des études de droit. Et tout en faisant ces études, en commençant ces études de droit, vous avez créé l'antenne locale de l'UFC Que Choisir avec un de vos frères. Et vous teniez des permanences pour aider les gens. C'est venu d'où ce désir d'aider les autres? Parce qu'il y a de ça.
Bah écoutez, oui, c'est vrai que c'est mon frère Guy qui m'a emmené dans cette aventure, dont je suis encore pas sorti. Moi j'avais un frère aîné qui avait fait du droit, il était épris de justice, mon frère Serge. Du coup, c'est quelque chose qui était dans la famille, la justice, lutter contre les injustices. Et il y a une injustice qui me frappait, c'était justement le consommateur un peu isolé, qui se faisait arnaquer, qui avait des droits qu'il pouvait pas vraiment mettre en œuvre parce qu'il les connaissait pas. À l'époque, il n'y avait pas le droit de la consommation, hein, c'était le code civil. Bon, et comme j'allais faire des études de droit, je voyais le droit comme un outil. J'étais pas trop, et je l'écris d'ailleurs dans mon livre, sur l'idée de protéger les gens, mais sur l'idée de leur donner des droits et faire respecter les droits. Et c'était une façon de rééquilibrer. Le droit à l'information, par exemple. Le droit à l'information, c'est puissant. Le droit à la sécurité des produits. Bon, un certain nombre de choses comme ça. Voilà. Il y avait la revue qui existait déjà en 77, elle était là depuis 61, Que Choisir, et je trouvais très pertinent d'avoir cet outil d'information, de décryptage au sein d'une association, ce qui lui assurait de l'indépendance, parce que les médias ne sont pas toujours indépendants.
Parce qu'on n'a pas parlé effectivement du financement de l'UFC, vous êtes indépendant et vous y tenez beaucoup à ça.
Voilà, mais c'est un...
Vous avez vos adhérents.
C'est un privilège énorme.
Vous 140 savez, 000 adhérents environ.
Comment?
140 000 adhérents.
Alors on a 140 000 adhérents.
Il y a les abonnés.
Les abonnés qui sont pas loin de 500 000.
Et il y a les bénévoles, des milliers.
Et on a 220 000 également abonnés au site Que Choisir en ligne. Donc voilà, et puis on a des bénévoles qui, effectivement, eux ont un rôle d'animation du territoire, de recevoir les consommateurs pour les difficultés de litige, mais aussi de plus en plus, c'est ce qu'on essaye de faire, de mobiliser les consommateurs pour des combats, pour une société plus juste, plus sobre de consommation, avec des enjeux d'environnement, de consommation responsable. Donc on a beaucoup de sujets qu'on fait avec, d'ailleurs, en partenariat avec d'autres ONG. Vous voyez, par exemple, la pétition glyphosate, on en est à presque 500 000. On l'a fait avec d'autres, et c'est en faisant des actions de rue avec nos bénévoles, qui sont pas forcément habitués à ça, parce que ils sont venus pour régler du litige, et maintenant on leur demande de faire de un peu d'activisme, j'allais dire. Et c'est comme ça, sans doute, qu'on gagne des batailles, et qu'on va drainer un nouveau public plus jeune, qui s'appuie sur une structure experte indépendante pour mener des combats.
Parmi vos victoires, Alain Bazot, donnez-nous peut-être celle qui vous a fait le plus plaisir, parce qu'il y en a. Vous vous êtes attaqué à des géants. C'est grâce à vous, on va le dire, hein, quand même, qu'on paye nos SMS beaucoup moins cher.
On avait expertisé, mais là encore, on s'est doté d'une expertise économique. Donc on a une expertise juridique, scientifique.
Dites-moi, vous, ce qui vous a fait le plus plaisir.
Écoutez, ce qui m'a fait le plus plaisir, parce qu'elle a propulsé l'association dans les tout premiers rangs des grandes organisations de consommateurs dans le monde, c'est quand on a été capable d'avoir une étude suffisamment sérieuse, fouillée, pour inquiéter les opérateurs de téléphonie mobile qui s'étaient entendus. Et ils ont été condamnés, à l'époque, une amende record, plus de 530 millions d'euros. Les trois opérateurs historiques, les trois opérateurs avant qu'il y ait Free, ont été condamnés. Et là, ça a montré que l'UFC Que Choisir avait une capacité d'expertise, d'action dans le domaine économique et dans le domaine du préjudice subi à l'économie à travers le préjudice subi par les consommateurs. Parce que c'est quelque chose comme 1 milliard d'euros que les consommateurs ont perdu parce qu'il y avait des prix artificiellement élevés. Et donc ça nous a fait rentrer dans la cour des grandes associations de consommateurs. Donc ça, c'est un motif quand même de satisfaction, mais il y en aurait bien d'autres.
Le combat que vous rêvez de gagner aujourd'hui?
Alors, le combat que je rêve de gagner, c'est d'obtenir la reconnaissance que notre mouvement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est un mouvement politique. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un projet de société politique, pas dans le sens de politicien,
dans le sens consommateur,
et pas dans le
citoyen,
sens de partisan. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, et ça m'a fait plaisir. Vous voyez bien que nos postures, nos combats, c'est de dimension politique, sociétale. On a une réflexion, et j'aimerais que aussi bien dans les médias, vous voyez, quand on parle du pouvoir d'achat, on invite toujours les représentants, et c'est normal, des salariés pour la question des revenus. Mais l'expert de la formation des prix, parce que le pouvoir d'achat, c'est pas que ce que je gagne, c'est comment se forment les prix. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a des rentes de situation. Eh bien, on oublie toujours cette partie qui est très, très, très politique, hein, au sens noble, hein, du terme, et on le revendique. Et donc voilà, j'ose espérer que l'organisation aura aussi sera perçue également comme un acteur du marché. Un acteur du marché.
On n'a plus que 10 secondes, Alain Bazot, c'est passé très très vite. C'est toute votre vie, ce combat, cette association.
C'est une grande partie de ma vie, mais l'enseignement, ça a été une de mes passions. Et évidemment, ma vie de famille, même si elle en a un peu souffert, reste pour moi quelque chose d'important dans ma vie.
Merci mille fois, Alain Bazot, d'être venu ce soir. On vous lit évidemment sur le site de l'UFC Que Choisir, et puis il y a la revue, évidemment, chaque mois. Il y a le livre qui vient de sortir, il y en avait un autre que vous aviez écrit vous aussi il y a une quinzaine d'années. Un très grand merci d'être venu ce soir sur France Inter.
Merci à vous.